de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 2 mars 1987.
Qui permet le lien entre les deux. Donc, dans une grâce peut être donnée. C'est ça le grand chemin de l'être d'un sacrant. L'âme est le lieu de notre enfantement à la vie divine. Donc de se dire enfant de Dieu, c'est plus seulement esprit, c'est âme. Saint. prima instrument. Et puis alors, le corps qui devient temple du Saint-Esprit par l'âme, puisque l'âme est le lieu où la grâce de Dieu est donnée. C'est l'âme qui est en puissance obédientielle à la grâce. L'âme est en attente de la grâce, pas le corps immédiatement. Le corps par l'âme, mais pas directement le corps. Le corps par l'âme est en attente de la grâce. Et le corps en attente de la grâce est sanctifié. Et parce qu'il est sanctifié, il est éternel. Résurrection des corps. Mais le corps sera le lieu de la mort.
Philosophie de l'action.
remplacer l'action politique avec d'autres actions, vous voyez bien ce que ça pose comme problème. Plus de contemplation. Il n'y a plus que le problème de la personne. Le problème de l'âme est résorbé dans la personne. C'est extrêmement curieux. Et les stoïciens se terminent avec, il ne faut plus jamais l'oublier, Epictète, qu'on doit aimer beaucoup. Les entretiens d'Epictète, il faut les lire. C'est une chose extrêmement belle et très intéressante. Ça se lit comme des petits romans. Le soir, place à voir un roman, lisez Epictète, c'est excellent, tu vois. Parce que c'est la philosophie de Rome, au temps où Saint-Pierre et Saint-Paul sont arrivés à Rome. Donc pour nous, c'est très intéressant. C'est la philosophie de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Donc c'est une grande philosophie de l'action politique. Mais l'âme est résorbée. Donc plus de métaphysique, plus de contemplation, plus d'action. Une action d'une noblesse très grande. Les stoïciens ont une très grande noblesse. C'est se dominer. C'est quand même très grand. Ils ont été les pères de l'éducation. Ça, c'est sûr. Et les stoïciens ont été les premiers philosophes qui ont pénétré dans la philosophie, chez les pères de l'Église. La première philosophie assumée par la foi, c'est la philosophie des stoïciens. C'est un fait. Comprenez la providence. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est un fait. Donc, il faut s'incliner et dire, il y a là quelque chose de très très particulier, très grand. C'est les stoïciens qui ont reçu le christianisme et qui ont été les premiers à être intégrés dans le christianisme. Les pères de l'Église ont pris comme première philosophie le stoïcisme. Qu'est-ce qui se passe alors? On voit que le problème de la personne va prendre une place énorme dans la doctrine sacra chez les pères de l'Église et chez saint Thomas. Chez saint Thomas, il y a ceci de très particulier, c'est qu'il y a un équilibre entre la métaphysique de l'âme et l'éthique de la personne. Et je crois que c'est cela qu'on doit regarder. Oui, je ne l'ai pas assez souligné, hein, parce qu'on met du temps à comprendre les choses. Heureusement qu'on progresse. Mais je ne l'ai pas assez souligné dans ma topic. Je la ferai différemment aujourd'hui. Je la ferai différemment, je la ferai la même. Mais j'accentuerai certains aspects que je vous donne ici. Parce que ça me semble donner l'intelligence de cette topic. C'est un peu matériel. Il faut d'abord faire une chose d'information. Puis petit à petit, on découvre derrière cela. Il y a sûrement chez saint Thomas un équilibre très étonnant. C'est peut-être la grandeur de saint Thomas par rapport à la personne. Entre le problème de la personne dans la très sainte Trinité, dans le mystère de l'incarnation, et la personne dans l'éthique, qui assume tout le problème de la substance, grâce à la pauvre définition de Boès. C'est curieux, parce que Boès, c'est pas un métaphysicien, c'est pas un stoïcien, c'est un logicien. La logique d'Aristote a pénétré avec Boès. Et Boès a donné une définition de la personne. Donc, entre les stoïciens et Thomas d'Aquin, était Boès. Boès demeure éternel grâce à sa définition de la personne. C'est extraordinaire. Parce que sa définition de la personne, elle est particulière. Mais on voit que saint Thomas la garde. Donc il y a là quelque chose d'important. Comment cette pauvre définition de la personne qui s'enracine dans la substance Et la substance de l'homme, c'est l'âme. On va pouvoir par là intégrer la métaphysique hélétique et faire que la métaphysique hélétique vont se réconcilier. Alors qu'il y avait une séparation entre la métaphysique aristotélicienne et l'éthique stoïcienne. L'éthique stoïcienne refusait la métaphysique. Et la métaphysique aristotélicienne était restée toujours au niveau de l'âme. N'avait pas su. Faut bien le voir. Et c'est peut-être le problème de la subsistance. Le problème de la subsistance qui permet de faire le lien entre l'âme et la personne. Il y a un métaxu qu'il faut trouver. Et c'est intéressant de découvrir le métaxu. Parce que le problème de la subsistance, vous voyez, c'est le pose au niveau métaphysique. C'est le pose de l'âme. L'âme subsiste. Or la personne, c'est le pose. C'est le comment. Le pose, c'est le comment. Et le pos chez les stoïciens, c'est la grande question. Le tiesti disparaît, c'est le pos. C'est le comment. C'est pas étonnant, ce sont des hommes actifs. Dans l'action, c'est le comment qui commande tout. Comment allons-nous organiser un état? Dans la philosophie politique, c'est le pos qui commande tout. Or, l'éthique personnelle devient une éthique politique. Et donc, c'est le pose qui l'emporte. La finalité est absorbée par le pose. Donc, je crois que le lien entre les deux, vous voyez, c'est justement le problème de la subsistance. Toujours est-il que chez saint Thomas, c'est net. Il y a de nouveau, il y a réconciliation. Au niveau de la théologie, au niveau de la théologie, entre la personne et l'âme. On ne peut pas dire que saint Thomas c'est uniquement une théologie de l'âme. Et on ne peut pas dire que saint Thomas c'est uniquement une théologie de la personne. C'est la théologie des deux. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de Dieu, on ne parle plus de l'âme, on parle de la personne. Et quand il s'agit de l'homme, on parle de l'âme, et par l'âme on atteint la personne. Logique. On voit que la personne va plus loin que l'âme. Ça qui est aussi très intéressant, réconciliation du problème de l'âme et de la personne, en faisant que l'âme humaine et la personne divine vont se réconcilier. Vous ne dites pas l'âme divine. Saint Thomas n'a jamais parlé d'âme divine. Tandis qu'il parle d'une personne divine. La distinction des personnes dans la très sainte Trinité, c'est un problème personnel. C'est pas un problème de l'âme. On va pas couper l'âme de Dieu en trois. Tandis qu'on fait trois personnes. C'est très extraordinaire de voir comment, par la personne, et non pas par l'âme, le théologien va avoir un instrument qui va permettre donner une certaine explication théologale de la très sainte Trinité. Pour montrer que ce n'est pas contradictoire. C'est la seule chose que peut faire le théologien. Tandis que si le philosophe n'avait qu'une métaphysique de l'âme, il ne pourrait pas. Donc c'est la métaphysique de la personne qui permet d'offrir au théologien un instrument pour expliciter le mystère de la très sainte Trinité. Et ça, c'est très grand. Vous voyez, la providence, c'est pour ça que les stoïciens sont plus proches des chrétiens. Parce que pour le chrétien, c'est plus important de faire la théologie de la très sainte Trinité que faire de la théologie de la personne humaine. Et vous comprenez pourquoi? Parce que la personne humaine, au point de vue théologien, s'explique par la personne de la très sainte Trinité. Au niveau C'est la très sainte Trinité qui explique tout dans la doctrine à sacrant. Ce n'est pas de l'ontologisme, mais c'est de la théologie doctrine à sacrant. Et si je laïcise cette théologie, je tombe dans l'ontologisme. Je crois que vous arrivez à comprendre ça petit à petit. Parce que c'est important de bien saisir ce qui, de fait, nous vivons actuellement. On ne peut pas expliquer ce qu'on vit actuellement si on ne voit pas tout cet enracinement. Parce qu'on ne voit pas comment se sont posés les problèmes. Donc, saint Thomas représente là un sommet, je crois, le lien entre l'âme et la personne. Et l'introduction de la personne dans le mystère de la très sainte Trinité. Après saint Thomas, la philosophie a voulu reprendre, son indépendance. Le problème de Descartes. Parce qu'elle a voulu reprendre son indépendance. Mais elle a voulu reprendre son indépendance à partir de théologiens qui n'étaient plus du tout métaphysiciens, qui étaient des logiciens. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme problème, et Gilson l'a bien montré, c'est que tous les termes de la scolastique sont présents chez Descartes. Le petit dictionnaire philosophie de Descartes que Gilson a fait pour montrer que tous les termes scolastiques sont présents, mais tous obtiennent une nouvelle signification. Et on voit progressivement que c'est le problème de la personne qui va être le grand problème de la philosophie moderne et contemporaine. Et que le problème de l'âme va progressivement disparaître. Parce que je crois qu'on est en présence d'une laïcisation de la théologie. La laïcisation de la théologie fait que l'ordre des valeurs n'est plus le même et que la personne prend alors une valeur unique. Et le sommet de cette recherche de la personne, je dis bien, c'est chez Hegel. Hegel représente le génie, c'est pas Descartes, le génie de cette nouvelle philosophie engendrée des théologiens et impliquant une laïcisation des théologiens. Alors, chez Hegel, on a ce fait d'une réconciliation de la foi et de la raison, mais une réconciliation telle que c'est la raison qui absorbe la foi. Et je crois que c'est cela qui explique l'hégélianisme. Vous voyez, séparation de la foi et de l'intelligence et de l'entendement chez Descartes. Descartes ne dit pas « je suis chrétien ». Il dit « je pense ». Là, c'est le cri du cœur de Descartes. Il a tellement peur de ne plus penser qu'il dit qu'il est certain de penser. Et quand on a très très peur de ne plus penser, on ne pense plus. C'est l'inhibition de la pensée par la foi. Ça arrive. Je pense. Alors, au contraire, je suis luthérien. Hegel. D'une certaine manière, vous voyez, on pourrait dire que Hegel est plus croyant que Descartes. Je ne sais pas, ça, c'est le jugement de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vitalité de l'intelligence chez Hegel prodigieuse. Je dis bien une vitalité géniale et terrible. faut oublier ça. Il a d'abord fait de la théologie, Hegel. Et si Hegel avait rencontré une théologie vivante, il aurait peut-être été tout le temps théologien. Il était déçu. Et donc il a cherché une autre source. La source de la raison. La source de la vie de l'intelligence. Dans son développement. Dans son développement dialectique. Donc rationnel. Et dans l'immanence de la raison. Mais il est quand même dépendant des théologiens. Et c'est pour ça que de fait, c'est la raison qui absorbe la foi. Alors, ce que je vous disais, je crois que c'est important puisque lui-même le dit. Donc il faut essayer de saisir Hegel par lui-même. Quand il dit que le point de vue de la personne, c'est un peu le sommet de toute sa dialectique. Il le dit que c'est un sommet de toute sa dialectique. Parce que c'est un sommet de sa dialectique, c'est l'oméga. Et le point de départ de cette dialectique, je suis le terrien, c'est la foi. Alors, j'explique un tout petit peu ça parce que c'est important. La foi nous donne un jugement d'existence à l'égard d'une personne. Pour le croyant, Dieu n'est pas premièrement l'être premier, l'acte pur. Dieu est une personne qui m'attire, qui me parle. C'est le « je suis ». Et si je prends la foi chrétienne, c'est Dieu qui me parle à travers l'humanité sainte du Christ. « Je suis ». Et vous retrouvez ça au cœur de l'évangile de saint Jean. Jésus qui dit « je suis ». L'alpha et l'oméga de la révélation. Et la révélation chrétienne prend les deux. Et quand Hegel dit « je suis luthérien », c'est la foi chrétienne. Donc c'est la foi en la personne de Dieu. C'est l'existence de l'être premier en tant qu'il est personnel. C'est donc un jugement d'existence à l'égard de la personne. Un jugement d'existence à l'égard de la personne n'est pas le jugement d'existence philosophique. Vous voyez la parenté avec ce que dit Hegel, je pense, donc je suis. Quand vous dites je suis, c'est pas tout à fait la même chose que lorsque vous dites ceci est. Vous pourriez réfléchir sur ces trois aspects du jugement d'existence. Parce que ça vous aiderait peut-être à comprendre ce que je veux exprimer ici. Ceci est, je suis, et puis le je suis. Aristote, Descartes, Hegel. Ceci est Descartes, je suis. Et vous comprenez que le je suis est enveloppé du je pense. Ce qui est la même chose. Je pense donc je suis, ça veut dire que dans le je pense, je découvre je suis. C'est pas un raisonnement, hein, c'est une explicitation. Donc c'est le passage du je pense vers le je suis. Quand on dit je pense, sans dire l'objet, ça veut dire je pense à moi. Soyons un peu polis. Quand vous dites je pense, mais c'est faux. Vous êtes le nombril de l'humanité, et non seulement de l'humanité, mais du monde entier, et même de Dieu. Donc je pense, je suis. C'est le je suis et dans le je pense. Ça, c'est Descartes. Et Hegel, je suis luthérien, c'est-à-dire je suis. Le je suis hegelien rejoint le je suis de Dieu. C'est très extraordinaire, ça. comprendre ces niveaux du jugement d'existence. Le jugement d'existence dans toute sa pureté, dans toute sa limpidité, dans toute sa fragilité, ceci est. Vous comprenez bien que le ceci est beaucoup moins intéressant que le jeu. Le ceci est anonyme. Et grâce à l'anonymat du ceci, être peut devenir magistral. Et il peut être mis en pleine lumière. Tandis quand tu dis je suis ou je pense, et surtout quand je pars du je pense. Ce qui est important, c'est le je dans le pense, dans la pensée. C'est pour ça que je pense à moi. Ça ne peut pas être autrement. C'est impossible autrement. Donc, vous avez là le mouvement inverse. Penser est ordonné au je. Et le suis est ordonné au je. C'est la personne qui prime et qui va tout envahir. Et quand Dieu dit « je suis », vous comprenez, c'est l'être ordonné à la personne, ce qui est légitime pour Dieu. La personne de Dieu est plus que être. C'est ce qu'il peut y avoir de juste quand on dit « Dieu sans l'être ». C'est le jeu qui l'emporte. C'est tout à fait légitime pour Dieu. En Dieu, être et penser ne font qu'un. Mais c'est l'être qui est absorbé par la pensée. Et la pensée est absorbée par le jeu. Ceci fait comprendre, voyez, comment dans cette philosophie qui, de fait, part de la foi, le problème de la personne devient premier. C'est plus le problème de l'être. La dialectique hegélienne ne se termine pas sur l'être, elle se termine sur la personne. Elle part de la personne, et elle se termine sur la personne. Parce que l'être devient relatif au jeu. Ce qui serait très intéressant, parce qu'il faut réfléchir sur ça, parce que c'est notre problème d'aujourd'hui. Vous êtes ou hégélien ou aristotélicien. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est très intéressant, du reste. C'est merveilleux de voir ça. C'est merveilleux de voir que... Ah oui, c'est vrai. Il y a les deux qui se jouent là, dans le « je suis ceci ». Alors, c'est très intéressant, voyez, de voir que, de fait, lorsqu'il s'agit d'une métaphysique de l'être, on se sert de l'expérience externe. Le « ceci est » implique l'expérience externe. C'est les deux ex. L'expérience externe. Donc ce qui est en dehors de moi, c'est l'autre. Et c'est l'autre qui prime. L'expérience externe, donc les sensations. Les sensations sont présentes. Ce n'est pas les sensations qui font toucher l'être. C'est l'intelligence à travers les sensations. Les sensations externes. Et spécialement le toucher. Quand vous dites ceci est, vous touchez, vous l'indiquez. Voici l'agneau de Dieu. Vous indiquez. C'est l'expérience externe. Tandis qu'en dit le primat du je pense, c'est l'expérience interne. Dans l'expérience interne, les sensations et le toucher sont mis entre parenthèses pour regarder uniquement l'immanence de ma vie intérieure. Et c'est cette immanence de ma vie intérieure qui prime. Je demeure donc dans l'intentionnalité. Et je ne rejoins plus la réalité qui existe en premier lieu. C'est à travers le halo de l'intentionnalité, de la pensée, que je saisis l'être. L'être est donc relatif à l'intentionnalité. Il est saisi à travers l'intentionnalité. Et la personne est saisie dans le noyau fondamental de l'intentionnalité. Ça, je crois qu'on peut le saisir. Lorsque je suis dans la foi, c'est-à-dire lorsque Hegel reprend le problème du « je suis », la foi n'est pas dans l'intentionnalité. La foi implique une adhésion à Dieu qui me parle. Et Dieu qui me parle, ce n'est pas l'intentionnalité. C'est une personne existante et vivante qui me parle. Personne à personne. C'est un dialogue. C'est vrai, la foi est un dialogue. Et on considère que c'est ça qui est premier. Le dialogue et la dialectique. Posez-vous la question. Comment le dialogue va donner naissance à la dialectique? Parce que, de fait, la foi, c'est un dialogue. C'est un face-à-face. Un face-à-face dans l'obscurité. Un face-à-face existentiel dans l'obscurité. Alors, l'existence est première dans la foi. C'est évident. Puisque l'intentionnalité dans la foi est très faible, je ne comprends rien. On ne peut pas nier que c'est l'existence et la présence d'un être qui m'aime qui est première dans la foi. Donc l'aspect existentiel est premier. Ça, je crois qu'il faut bien saisir ça. Donc d'une certaine manière, Hegel reprend un réalisme face à Descartes, face à Kant. Il reprend un réalisme, c'est pour ça que les Hegeliens diront que Hegel c'est le réalisme de la foi. Ça, il faut le reconnaître, c'est le réalisme de la foi. Et il y a donc, dans la réaction hegelienne, face à Kant, quelque chose d'extraordinairement sympathique. Le croyant ne peut pas vivre d'intentionnalité. Le croyant vit d'une réalité et d'une réalité personnelle. Alors on est tous d'accord. Mais si la foi, parce que l'intentionnalité est en quelque sorte dépassé pour le croyant. L'intentionnalité est dépassée dans ce réalisme. Si, de fait, cette obscurité de l'intentionnalité, on veut la rendre intelligible dans un but apologétique, jamais Hegel dirait que la foi est absurde. Je crois parce que c'est absurde. Hegel dirait, je crois parce que c'est suprêmement intelligent. Là aussi, c'est sympathique. Je crois parce que c'est souverainement intelligent. Et donc, il veut essayer de montrer que la foi, c'est le lieu de la plus grande intelligibilité. Il va être réintroduit à l'intérieur du jugement de la foi, cette recherche d'une intelligibilité suprême pour montrer que le noumen du croyant est parfaitement intelligible et non pas quelque chose qu'on ignore. On va donc essayer, à partir de la foi et dans la foi, de redécouvrir l'intelligibilité suprême. Or, le jugement de la foi part sur une personne. On va donc